Donc voilà, donc si vous avez le plan devant vous, ce sera très bien. J'annoncerai les titres au fur et à mesure de l'avancement du cours. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre deuxième volet du mystère pascal, cette fois-ci avec la résurrection et la confession de foi en Jésus-Christ ressuscité. Et donc lorsque l'on parle du mystère pascal, on ne dissocie pas la mort de la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus-Christ font partie d'un seul et même mystère. Donc on prend toujours, on ne dissocie pas. En fait, elles sont, on pourrait dire qu'elles sont les deux faces d'un même mystère, d'un unique mystère. Et puis lundi dernier, je me souviens vous avoir évoqué avec vous les risques, en tout cas le risque d'une hérésie que l'on appelle le docétisme. Eh bien en fait, si l'on séparait la mort de la résurrection de Jésus, on serait face à deux risques, dont l'un serait celui de voir en la résurrection, enfin on va commencer par la mort, de voir en la mort uniquement la dimension doloriste, c'est-à-dire si on ne considérait non pas que la mort, mais si on donnait une importance plus grande à la passion et à la mort du Christ par rapport à la résurrection, alors on aurait une vision du mystère pascal qui serait doloriste, c'est-à-dire qui serait tellement fixée sur la souffrance et la douleur qu'on en oublierait l'espérance aussi que constitue l'acceptation de Jésus sur la croix, lorsqu'il accepte de mourir sur la croix. Donc, on tient toujours l'équilibre. Et si, de l'autre côté, on était plus sur la dimension de résurrection, si on oubliait ou si on amoindrissait la dimension de douleur et de souffrance de Jésus sur la croix, alors on serait dans l'hérésie dont je vous parlais la dernière fois, le docétisme, D-O-C-T-I-S-M-E. Donc le docétisme, c'est une hérésie du 2e-3e siècle, et les docètes, donc ceux qui faisaient partie de cette doctrine, enfin qui adhéraient à cette doctrine, pensaient que Jésus sur la croix ne pouvait pas avoir souffert parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc les docètes, ce mot-là est dérivé du terme grec qui veut dire dokeo et qui veut dire faire semblant, paraître. Et donc les docètes pensaient que Jésus avait fait semblant de souffrir sur la croix. Il avait montré une apparence de douleur, mais sans être vraiment livré, enfin sans vraiment souffrir. Donc vous voyez que ces deux dimensions, si on les prend que d'un côté ou que de l'autre, on est dans une radicalité et en tout cas, on n'est pas dans le mystère pascal, on est dans autre chose. Donc on tient toujours lié la mort et la résurrection du Christ, d'autant plus que, de manière tout à fait logique et banale, on pourrait dire qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort préalable de Jésus-Christ. Donc on tient les deux. L'autre unité que l'on doit tenir par rapport à la croix et la résurrection, enfin en tout cas l'autre enjeu de tenir l'unité, c'est d'une part de maintenir l'unité entre la nature humaine et la nature divine du Fils, c'est-à-dire on confesse la double nature de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu, qui est mort sur la croix au terme de sa passion.
Comment s'appellent les hérésies qui vont dans un sens ou dans l'autre ?
Alors,
s'il vous plaît.
Bah, y a les hérésies qui vont dans le sens de la résurrection, il n'y en a pas en fait.
Non, c'est vrai, homme, vrai Dieu. Homme, Dieu.
Ah, ben oui, ceux qui sont. Alors, ça, il faut remonter au concile de Chalcédoine. En 451, donc ça c'était les hérésies de Nestorius et de Tychès. Voilà. Un qui mélangeait les natures et l'autre qui les séparait tellement qu'elles n'avaient plus rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Donc vous voyez bien que Là, on est au 2e, 3e siècle, donc on n'est pas encore à Chalcédoine, hein, 451 Chalcédoine. Donc ça veut dire que on parle même pas d'église encore, hein, puisque la Pentecôte ne s'est pas encore produite. Mais on voit bien qu'au 2e, 3e siècle, après l'événement Jésus-Christ et après la naissance de l'église, les questionnements sont internes à l'église. On se pose des questions, et c'est normal de s'en poser des questions. Donc plus à l'intérieur de l'église on se pose des questions, plus on va remettre en cause peut-être la divinité de Jésus, le fait qu'il ait souffert ou pas. Ben oui, si on dit que Jésus est le Fils de Dieu, alors le Fils de Dieu non seulement ne peut pas mourir, mais encore moins peut-il souffrir. Vous voyez, mais l'église des premiers siècles et les pères de l'église ont largement contribué à répondre à ces questions. Et une fois que la réponse a été donnée, a été entérinée par le pape, alors tout ce qui est contraire à la réponse devient une hérésie. Mais au départ, ce n'était pas une hérésie, c'était juste une interrogation qui était livrée au débat dans l'Église. Elle devient hérésie après, une fois que le dogme est affirmé, ratifié par le pape, alors à ce moment-là, tout ce qui est contraire à cette affirmation est hérétique et donc ceux qui l'affirment sont anathèmes. Voilà. Donc en fait, voilà un petit peu les risques qu'on doit vraiment tenir, la passion et la résurrection, si toutefois on était tenté d'être plus attiré par ce moment de la passion ou par ce moment de la résurrection. Donc je vous parlais de tenir la double nature de Jésus, et puis d'autre part, c'est de continuer à affirmer la filiation divine. Parce que Jésus mourant sur la croix n'en est pas moins le Fils de Dieu. Il n'en est pas moins Fils, et il n'en est pas moins divin. Et même Jésus sur la croix manifeste et continue de manifester, même dans la souffrance, la révélation de son Père qui se fait en sa personne. Souvenez-vous, je vous disais la fois dernière, celui qui, au pied de la croix, révèle qui est Jésus, révèle son identité, paradoxalement, c'est un païen, c'est le centurion romain au pied de la croix. À la manière dont Jésus rend l'esprit, il s'écrit « Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu ». Donc on voit bien que la croix est aussi le moment de la révélation. Il se révèle quelque chose de particulier au moment de la croix. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un terme à la révélation, proprement dit. Le terme de la révélation, il s'accomplit en la personne de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas dire que la croix, c'est le terme, puisque il n'est pas encore mort, que déjà Jésus pardonne, et que déjà, et quand il meurt, eh bien, il continue de révéler auprès des païens, faire naître. Et ça, c'est l'action de l'Esprit Saint, bien entendu. Donc la mort et la résurrection de Jésus vont lui faire vivre l'extrême de l'humanité, c'est-à-dire l'extrême de sa condition humaine. Et l'extrême de notre condition humaine, c'est la souffrance et la mort, malheureusement, bien entendu. Et heureusement, il y a des moments plus heureux dans nos vies que ça, mais ça, c'est l'extrême de notre condition humaine. Et on peut dire que la réponse du Père à cet extrême de la condition humaine, ce sera l'extrême de l'amour, en fait. Et donc l'extrême de la résurrection, c'est la réponse du Père à cette condamnation humaine. Alors je vous disais à l'instant, je vous parlais de l'intervention de l'Esprit. Bien sûr que l'Esprit Saint est acteur, il est pleinement acteur dans la résurrection du Fils. Donc il y a, dans le mystère pascal, on ne peut pas évacuer, amoindrir ou passer comme si cela n'existait pas la dimension trinitaire de la résurrection et du mystère pascal. C'est notre premier point, la dimension trinitaire de la résurrection. Parce que dans l'acte du Père de ressusciter le Fils, il le fait par la puissance de l'Esprit. Donc on peut dire que la filiation et la relation trinitaire est inscrite dans la résurrection. Elle en fait partie. D'abord parce que le Père donne le Fils, et le Fils et le Père se donnent lui-même dans le Fils. Hein, il donne le Fils, l'incarnation du Verbe, et il se donne lui-même dans le Fils, puisque c'est par le Fils que l'on peut accéder au Père. Le Fils lui-même va donner sa vie en se livrant et en acceptant de mourir sur la croix. Et puis sur la croix, le Fils va rendre l'Esprit au Père. « En tes mains, je remets mon Esprit. » Donc, vous voyez, l'Esprit est toujours présent. Et puis le Père ressuscite le Fils par la puissance de l'Esprit. Rien ne se fait sans l'action de l'Esprit. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a une relation trinitaire et une circularité entre les trois personnes qui se fait par l'Esprit qui est commun au Père et au Fils. C'est par le même Esprit. Donc, une relation trinitaire, un mouvement de circularité entre les trois personnes. Il n'y en a pas une qui est séparée des autres et vice-versa. Oui ?
Je ne comprends pas bien la phrase.
Donc, je disais que dans cette relation trinitaire, il y a un mouvement donc, de circularité entre les trois personnes qui ne se confondent pas, ou bien trois personnes distinctes. Mais la circularité trinitaire, elle est à l'initiative du Père, quand même. Hein. Il y a une volonté, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il y a une volonté. Et donc, la résurrection du Fils va opérer, et là je cite Romains chapitre 6, verset 10, va opérer, donc la résurrection du Fils va opérer le passage à une forme d'existence qui a laissé la mort derrière elle une fois pour toutes. Voilà, ça c'est une affirmation, bien sûr, rétrospective, hein, c'est l'épître aux Romains, mais vous voyez bien, il y a quand même l'idée, une forme d'existence qui a laissé la mort derrière elle, une fois pour toutes. Donc ce passage de la mort à la vie ressuscitée, donc ce passage à cette forme d'existence, eh bien oui, par la mort du Christ et par sa résurrection, a détruit la mort, c'est-à-dire la mort comme néant, comme anéantissement total de la personne. Mais même si Jésus passe de cette forme d'existence, vous voyez, qui fait qu'on ne le reconnaît pas, par exemple, si le fait que lui, Fils de Dieu, meurt sur la croix et qu'il est ressuscité par le Père, ça ne modifie pas sa nature divine. Le Père n'en est pas moins le Père lorsque le Fils meurt sur la croix, lorsqu'il ressuscite. Voilà, il n'y a pas de modification dans le Père, voyez. Donc, ce mystère unique, cette relation filiale et cette communication de l'Esprit entre les trois personnes, et même si on pouvait dire en définitive que les événements de la croix, de la résurrection, de l'ascension, et même de la Pentecôte, parce qu'il faut englober la Pentecôte, eh bien, ce sont des moments distincts, bien sûr, mais en même temps, ils font partie d'un seul et même mystère. Vous voyez, on ne les sépare pas. Alors oui, ils sont distincts, mais ils font partie d'un seul événement de révélation et de manifestation. Mais c'est une manifestation de nature transcendante. Ça, c'est la différence. On n'est pas dans une manifestation purement humaine, horizontale. Donc on va expliquer ça. Donc on arrive à notre point 2. La résurrection, c'est un événement transcendant dans le temps des hommes, parce qu'il s'est produit dans le temps des hommes. Alors, quand on dit que c'est un événement transcendant, Eh bien, cela veut dire que c'est un événement qui s'est produit dans le monde, mais qui n'est pas du monde. C'est un événement qui n'appartient pas au monde. Et s'il n'appartient pas au monde, cela veut dire qu'il a eu lieu sans que les hommes, sans le recours des hommes. Voilà. Et que cet événement ne relève pas des capacités des hommes. Ça s'est produit sans que les hommes y soient pour quelque chose. Ils ont été pour quelque chose dans la mort du Christ, mais ils ne sont pour rien. Ils n'ont pas agi en ce qui concerne la résurrection. C'est pour ça qu'on dit que c'est un événement transcendant, c'est-à-dire un événement qui est l'acte de Dieu lui-même. Et c'est parce qu'il vient de Dieu que l'on dit qu'il est transcendant. Alors quand on parle d'événements, ben là on va dérouler un petit peu ça, parce que quand on se dit, bon, alors c'est un événement transcendant, la résurrection est un événement transcendant, il n'empêche qu'au matin de Pâques, eh bien la première chose que l'on voit, ben c'est le tombeau vide. Ça, c'est pas un événement transcendant, le tombeau vide. C'est bien un événement, c'est bien un constat, que quelque chose s'est produit, les femmes arrivent, la pierre est roulée, le corps de Jésus a disparu. Donc dans la chronologie des faits, eh bien, des faits de la passion, eh bien, ça nous amène au matin de Pâques et précisément à ce tombeau vide. Donc le tombeau vide, on ne peut pas dire que c'est un événement, ça sûrement pas, mais par contre, il est le signe de quelque chose. Il est le signe que quelque chose est arrivé, que quelque chose s'est produit. Donc, on pourrait dire, le tombeau vide, c'est le premier signe de la résurrection de Jésus. Mais le tombeau vide, c'est pas la résurrection de Jésus. Oui, dites-moi. Le tombeau vide met les premiers témoins devant une énigme. Devant une énigme.
Mais nous aussi, on est devant une énigme.
Eh oui. Alors, parlant du tombeau vide, hein, je reprends notre exposé, il n'empêche que le premier signe tangible de la résurrection, c'est quand même ce tombeau vide. C'est le premier signe tangible, c'est-à-dire quelque chose que l'on constate. Voilà, c'est un constat, le tombeau est vide et le corps de Jésus a disparu.
Il reste le linge.
Oui, il reste le linge plié en quatre, le linceul.
Non, celui qui portait sur la tête. Et puis c'est pour ça que l'intervention de notre ami sur l'enterrement juif, c'est très important parce qu'on a droit à nouveau de voir le visage puisque le linge a été retiré.
Oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut faire le lien. Vous avez raison. Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Donc, si on dit que le tombeau vide est un signe tangible, est-ce qu'on pourrait dire que la résurrection est un signe également ? Alors, c'est ça qu'on va voir, parce que la résurrection demeure un événement. Ce n'est pas un signe. Le tombeau vide, oui, est un signe que quelque chose s'est produit. Et ce qui s'est produit, c'est la résurrection de Jésus. Mais la résurrection ne peut pas être associée à un signe. Elle est en elle-même un événement. De la même manière que la mort de Jésus, c'est un événement pour le monde. C'est une rupture dans le monde humain. Mais que l'on ne dissocie pas de la résurrection. Donc, quelle est la différence ? Ben, la différence, on pourrait faire la différence entre le fait et l'événement. Alors je vous disais que la mort de Jésus c'est un événement, mais c'est un événement rétrospectivement, parce qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, pour le monde au moment où ça arrive, c'est un fait. Jésus de Nazareth a été crucifié, condamné par les Romains sur le vouloir, sur la volonté des grands prêtres et du Sanhédrin. Donc la mort de Jésus, c'est un fait.
Un fait historique.
C'est un fait historique, avéré historiquement, tout à fait. Mais ce fait historique est devenu dans la foi un événement. Donc en fait, on peut dire un fait n'est pas toujours un événement, heureusement, mais par contre, un événement commence toujours par un fait, par quelque chose qui s'est produit, qui a des témoins. Les témoins peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Ils peuvent témoigner du fait qui s'est produit. Donc là, on a vraiment la différence entre le fait de la mort du Christ, mais en raison même de sa résurrection, ce fait devient un événement par la résurrection. Donc ça, la résurrection, c'est un événement sans précédent. Un événement, on va dire, historique pour ceux qui le voient dans la foi. C'est un événement sans analogie, inconnu jusque-là, qui ne s'est jamais produit jusque-là. Je reprends mon exposé après vos questions tout à fait pertinentes, je vous en remercie. Donc je redisais que le tombeau ne peut pas être, le tombeau vide ne peut être qu'un signe à interpréter, et de la même façon, l'apparition de Jésus au matin de Pâques, elle n'est pas un signe, elle est une réalité à laquelle les femmes et Marie-Madeleine est confrontée en premier, même si elle ne comprend pas cela, et c'est normal, puisque pour elle, au matin de Pâques, elle venait apporter des aromates, elle venait pour le corps, soigner le corps mort de Jésus, et non pas, elle n'avait pas imaginé une seule seconde que le tombeau, que la pierre serait roulée, que le tombeau serait vide, et que finalement le jardinier qui s'adresse à elle est le ressuscité qu'il appelle Marie. Donc elle ne pouvait pas absolument pas imaginer l'idée même de la résurrection. Donc pour comprendre que la résurrection, que l'événement s'est produit, il va falloir une relecture à rebours, c'est-à-dire remonter, relire l'histoire, relire les événements, et c'est ce qu'ont fait les apôtres, ce qu'ont fait les disciples. Donc c'est cette relecture à rebours qui va permettre aux apôtres et aux femmes en premier, et on pense aussi aux pèlerins d'Emmaüs, les pèlerins d'Emmaüs, quand ils comprennent à la fraction du pain, au dos du pain, que c'est bien Jésus, eux, leur chemin de retour, c'est un chemin physique, parce qu'ils retournent physiquement à Jérusalem alors qu'ils fuyaient. Donc on peut dire que la résurrection est un événement transcendant. Je viens à cette phrase conclure notre petit point, parce qu'il s'origine en Dieu lui-même. Et donc le texte 1 que je vous ai sélectionné, c'est un texte de Balthazar, du théologien Hans Urs von Balthasar, qui dit « Dieu se présente lui-même et s'explicite lui-même, et ce faisant, il insiste sur le fait qu'il ne peut s'agir d'un événement symbolique, mais bien de la réalité de Dieu le Père incarnant le Fils et le ressuscitant au matin de Pâques. L'événement de la résurrection manifeste en elle-même, par le ressuscité, Dieu lui-même. » Voilà, ce n'est pas un événement symbolique. Voyez, la résurrection, c'est quelque chose qui manifeste et qui révèle. Donc on va, après vos questions, ce que vous avez touché par vos questions. Donc ce point suivant sur la résurrection au matin de Pâques, on va voir de plus près un petit peu ces personnes qui ont été témoins de la résurrection. Et en même temps, quand je vous dis ça, en fait, non, personne n'a été témoin de la résurrection, en fait. Comme personne n'a été témoin de l'incarnation, personne n'est témoin de la résurrection. On est juste témoin, ils sont juste témoins que le tombeau est vide. Voilà, à partir de c'est ça, c'est la seule chose. Mais l'acte même de résurrection, personne n'en est le témoin. Donc on peut dire que ce n'est qu'après la résurrection que les disciples, eh bien, relisant l'événement, peuvent comprendre l'événement même de la révélation de leur histoire, c'est-à-dire la révélation du peuple juif, du peuple hébreu. Ça aussi, c'est une révélation pour eux. C'est par le Christ et par la compréhension que le Christ est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité par Dieu qu'ils vont pouvoir comprendre la révélation de Dieu dans leur histoire, comme juifs.
C'est important de comprendre tel que vous l'énoncez.
Oui, c'est important. C'est important. Parce que vous voyez bien que la compréhension pour les disciples et les apôtres, ce n'est pas une compréhension immédiate. Elle agit, et ça c'est Balthazar qui dit, elle agit par degrés, par paliers. La mort de Jésus, sa mise au tombeau. Bon, ça c'est l'événement radical, la rupture radicale, la détresse radicale pour les apôtres. Et puis ensuite, il y a l'annonce des femmes. Et puis, la présence de Jésus ressuscité. Il n'est pas reconnu chez les pèlerins, avec les pèlerins d'Emmaüs. Par contre, il se montre à Pierre. Et donc, tous ces moments d'apparition, et même on pourrait dire de disparition, c'est-à-dire le moment où Jésus décide de se présenter au Cénacle, ou alors de disparaître, ce sont des moments qui appartiennent à Jésus en toute liberté. Mais on pourrait dire aussi que ce sont des moments qui agissent dans la mémoire des apôtres et des disciples. C'est-à-dire que ces moments leur permettent de s'interroger, et en s'interrogeant, ils interrogent le passé de Jésus. Quand il enseignait, il nous a dit ça. Ah oui, c'est vrai. Par trois fois, il nous a annoncé sa mort et sa résurrection. Vous voyez, ce sont des degrés qui vont mettre en route la mémoire des disciples et des apôtres, leurs souvenirs. Et c'est en se souvenant, qu'ils vont pouvoir témoigner de la réalité de ce qui s'est produit.
J'ai pas compris. Je peux m'expliquer pourquoi vous avez rajouté comme juif, parce que je redis la phrase. C'est par le Christ que les apôtres vont comprendre la révélation de Dieu. J'ai mis une virgule comme juif. Pourquoi comme juif ?
Parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs. Jésus meurt juif. Jésus est juif. On a tendance à oublier cela en fait. Jésus est juif. Les apôtres sont juives. Sont juifs. Les femmes sont juives. C'est ça. L'Église naît qu'après le retour du Christ vers son Père et à la Pentecôte, quand l'Esprit descend sur les disciples et sur Marie, en fait. Et la Pentecôte, c'est le moment dans la vie de ce peuple, c'est le moment où on va donner, où tout le monde se retrouve à Jérusalem pour offrir les prémices des récoltes. Et il n'est pas étonnant quand on y pense que ce soit à ce moment-là, là où il y a une universalité de langue et de peuplade et de voilà, que c'est à ce moment-là que l'Esprit descend sur les apôtres. Et souvenez-vous, on lit qu'ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais que tout le monde comprend. Voilà, une universalité du langage, une universalité du message. Et donc à partir de là, oui, les choses il y a une jonction, il y a quelque chose qui se passe. Et donc le baptême de Jésus, au nom du Père, vous baptiserez, la finale de Matthieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vient poser au terme de l'évangile de Matthieu ce par quoi celui qui était juif devient chrétien. Celui qui était païen devient chrétien. Et là, on passe à une autre, une autre, non pas dimension, mais un autre aspect de la croyance. Mais vous voyez bien, un autre aspect de la croyance qui fait en sorte que ceux qui se convertissent au christianisme, enfin, voilà, ces premiers chrétiens, ne renient pas la révélation de Dieu. C'est pour ça que ben, on est bien obligé de commencer par la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, parce que Dieu s'est révélé à un peuple particulier. Il ne s'est pas révélé à nous en premier.
Nous, on est des païens greffés sur l'arbre juif.
Alors ça, c'est Romains 11. Vous avez été greffés sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, l'olivier sauvage, c'est le peuple hébreu. C'est le peuple élu.
Et nous, on est des païens avant.
Alors, je ne sais pas si on était païens, mais les premiers chrétiens, c'était soit des juifs, soit des païens. Voilà. Si vous avez été baptisé bébé, enfant ou à l'âge adulte, vous ne pouvez pas vous considérer comme païenne. Voilà. Vous adhérez par choix, par décision, si vous êtes adulte, à la foi chrétienne. Et si vous êtes enfant, eh bien, vous êtes chrétienne, chrétien, par la foi que vous recevez de vos parents et du milieu dans lequel vous vivez. Et cette foi que vous recevez de vos parents vous amène au baptême. Mais ensuite, la foi, elle n'est pas acquise, c'est tous les jours, en fait. C'est tous les jours qu'on revient à la foi, enfin, voilà. Donc les premiers témoins au tombeau, ben, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui sont au pied de la croix quand Jésus meurt. Et ce sont les femmes qui sont les premières au matin de Pâques et qui découvrent que la pierre est roulée. Alors leur place parmi les témoins, c'est une place paradoxale quand même. Paradoxale parce qu'elle est primordiale. Ce sont les premières. Donc la place des femmes, elle est primordiale, à tout point de vue. Elle est primordiale, elle est même fondamentale. Hein, voilà, elle est même fondamentale. Mais en même temps, elle est mineure. Vous voyez, on doit tenir les deux. Elle est primordiale et en même temps, elle est mineure. Voilà. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi elle est mineure. D'abord, pourquoi elle est primordiale? Elle est primordiale parce que ce sont elles qui ont suivi Jésus de tout le temps. Elles l'ont tout le temps suivi. Elles ont pris soin de lui, d'une certaine façon. Elles l'ont nourri, Marthe et Marie, souvenez-vous. L'une est à ses pieds et l'autre prépare le repas. Donc on a comme ça des figures féminines qui sont des figures de soins, effectivement. Elles sont là lorsque Jésus est arrêté, elles sont là au pied de la croix lorsqu'il est crucifié, lorsqu'il meurt, sur le chemin de croix, hein, souvenez-vous, Véronique est sur le chemin de croix, elles sont tout le temps là, en fait. Elles sont tout le temps là, donc elle est place primordiale et fondamentale, ça c'est certain, pour fondamentale même pour l'Église, hein, on dira, hein. Encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, je vous disais qu'elle était mineure maintenant, et bien parce que le témoignage des femmes est un témoignage qui n'a pas été reçu. Vous voyez ? Parce que le droit de l'époque ne reconnaissait pas aux femmes la moindre capacité de témoigner et la même reconnaissance de la parole. Les femmes n'avaient pas droit au chapitre, comme on dirait. Voilà. Le droit juif ne les reconnaissait pas comme étant capables de témoigner. Enfin, je dis le droit juif, mais c'était aussi le droit romain, enfin, c'était le droit de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque de Jésus, les femmes et les enfants n'avaient aucun statut. Aucun. Ce n'était rien. Voilà. Pourtant, c'est elles qui sont là, c'est elles qui ont été là tout le temps. Et puis, leur parole, c'est quand même par elles les premières, qui vont annoncer ce qu'elles ont vu et qui vont porter le message que Jésus est ressuscité. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que il ne s'agit pas de donner la première place aux hommes par rapport aux femmes, ou la première place aux femmes par rapport aux hommes. Mais c'est de dire qu'au temps de Jésus, les femmes et les hommes avaient de l'importance. Elles avaient une place pour Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Et que le témoignage des femmes, il a valeur d'annonce, parce qu'on leur demande, suivant les évangélistes, soit les anges, soit le jardinier, d'aller annoncer, d'aller porter le message. Ce sont les premières messagères. Ce sont les premières à annoncer ce qu'elles ont vu, ce qui s'est passé. Donc il y a... leur place n'est pas une place de second ordre, vous voyez. C'est pas parce qu'on dit qu'à leur place est mineure que c'est une place de second ordre. C'est pas vrai. Et même la figure féminine de l'Église, on la retrouve particulièrement chez Jean. Et l'évangéliste Matthieu est un des évangélistes qui donne la place, beaucoup de place aux femmes. Hein. Quand on lit l'évangile de Matthieu, on peut voir cela très, très fréquemment. Mais par exemple, chez Jean, on peut lire, c'est notre texte 2, on peut voir que, par exemple, les aromates, le soin du corps mort, ne revient pas aux femmes, mais revient aux hommes. Par exemple, ça, c'est Jean 19, verset 39-40. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 litres. Donc vous imaginez, c'est très important. 100 livres, pardon. Ça veut dire, c'est une somme très importante. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. Et ça, on le trouve que chez Jean, parce que chez Luc et chez Marc, on ne le trouve pas.
C'était des femmes qui avaient l'intention de le
faire. Oui, mais je sais pas, on ne retrouve pas cela chez tous les évangélistes. Là, par exemple, Nicodème, c'est uniquement chez l'évangéliste Jean.
C'est un homme,
Nicodème, voilà. Par contre, à l'aube, c'est bien Marie-Madeleine qui est devant le tombeau vide. Et ce sont bien les apôtres Pierre et Jean qui courent au tombeau, les premiers. Et donc, vous vous souvenez, c'est Pierre qui rentre dans le tombeau pour voir de visu, c'est-à-dire pour pouvoir témoigner que le tombeau est vide, voir la réalité du tombeau vide, alors que Jean qui reste à l'extérieur, parce que Pierre c'est l'autorité de l'Église à venir, Jean dit « il vit et il crut ». Et le côté paradoxal, c'est que Jean qui reste à l'extérieur du tombeau, il croit alors qu'il ne voit rien, puisqu'il n'entre pas. Il croit sur du rien, vous voyez, c'est... Il ne peut pas constater comme Pierre que le tombeau est vide. Et pourtant, il vit que le tombeau est vide, entre guillemets, entre parenthèses, et il croit. Donc, ça nous ramène, en même temps que Thomas, à l'idée de croire sans voir, en fait. Bon, allez, je vous laisse faire une pause, peut-être. Je vois bien que la question du tombeau vide nous questionne beaucoup. Ce que l'on pourrait dire, c'est que le tombeau vide, en tout cas, il a au moins cette fonction, c'est de frapper les esprits quand même, de créer un choc pour ceux qui arrivent au tombeau le matin de Pâques, et puis précisément pour les femmes, au point qu'elles pensent que le corps a été volé. Donc on imagine très, très facilement leur frayeur et leur crainte. Parce que pour les femmes, et on voit bien que la frayeur des femmes et la crainte, elle est précisément relatée chez Marc. Voilà, la finale de Marc, normalement, la finale originelle de Marc se termine sur la frayeur des femmes, à tel point que les femmes ne vont pas annoncer ce qui s'est passé. C'est-à-dire, elles ne vont pas porter le message de la résurrection, elles partent effrayées. Donc, il y a eu une deuxième finale qui a été écrite chez Marc, justement parce qu'un évangile qui apporte la bonne nouvelle de la résurrection ne pouvait pas se terminer sur la frayeur des femmes. Donc si vous regardez les finales des évangiles, eh bien vous verrez les différences entre les évangélistes. Pour elle, voir le tombeau vide, c'était le lieu définitif de la mort. C'était le terme. Bien sûr, je vous dis des choses évidentes, le tombeau, c'est le terme de la vie. Mais je rajoute le définitif de la vie, le définitif même de la mort. Parce qu'elles savent que quelque chose s'est passé et que précisément, chez Luc, ce qui s'est passé est annoncé par un homme qui dit, et par un ange qui dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. On a ça chez Luc, au chapitre 24, versets 5-6, même il dit précisément, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Donc là, on est sur une première annonce kérigmatique, c'est-à-dire une première annonce du kérigme. Il est ressuscité. On est face à un kérigme. Et donc, si on relit le texte, enfin, je vous laisserai le relire, il me semble bien que les femmes regardent vers le sol, elles regardent par terre. Et à l'opposé de cela, au moment de l'ascension, par exemple, les disciples, ils sont aussi face à la même situation de disparition. Mais là, c'est Jésus qui retourne vers le fer, enfin dans une ascension, et là, les anges leur disent « Mais pourquoi fixez-vous le ciel ?» Après que la nuée, donc après que dans la nuée, Jésus fut enlevé et soustrait à leur regard. Donc on a bien là deux regards, le regard des femmes au tombeau qui regardent vers la terre. Donc le désespoir, l'interrogation, l'énigme et la frayeur. Et on a parallèlement à cela la reconnaissance de la résurrection et le retour vers le Père. Et dans les deux cas, on a un regard... un vers le sol, mais de l'autre, un regard vers le ciel, un regard vers l'ascension. Et donc...
L'ascension, elle est historique, alors ?
Alors, on peut dire que oui, puisqu'elle est témoignée. Elle est témoignée, alors après, historique, bien sûr, un historien actuel n'ira pas dire que s'il y a une véracité de l'événement, voilà, scientifique, historique, prouvé. En revanche, nous qui avons accès aux évangiles et à la foi de l'Église, on peut dire dans la foi que ce qui s'est passé s'est réellement passé, parce qu'on ne va pas chercher la véracité de cela, mais plutôt on le croit en vérité, parce que ceux qui ont écrit en vérité, et qu'ils ne cherchent pas à nous tromper. C'est ça la différence. Mais ça, c'est le saut de la foi qui fait, voilà, qui nous fait passer. Est-ce qu'on va chercher la véracité, le reportage, si ça s'est passé effectivement comme cela, ou est-ce qu'on va lire en vérité les évangiles ? Ben, si on les lit en vérité, on accepte cela. Et donc, les actes des apôtres, donc vous voyez bien, Luc, il écrit ça vraiment au temps de l'Église, à ces mots, donc au moment de l'ascension, à ces mots, sous leurs yeux, donc Jésus, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard, et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Donc vous voyez, c'est un départ, mais c'est un départ auquel est liée une promesse, la promesse du retour. Et ça, c'est totalement... voyez, c'est totalement nouveau parce que il n'y a pas de désespoir même dans le retour de Jésus vers le Père. Il n'y a pas de désespoir parce que là, il y a tout de suite une promesse. Comme vous l'avez vu partir, il reviendra. Mais avant de le voir revenir comme il est parti, il se passera la Pentecôte. D'abord l'envoi de l'Esprit, l'envoi du Paraclet. On n'en est pas encore au moment où on le verra redescendre, descendre vers nous. Enfin, ce temps de la parousie, ce temps du retour du Christ. On n'y est pas encore. Mais on voit bien que la promesse, elle est déjà là. Ce qui fait que la révélation de Dieu tout au long de l'histoire des hommes, elle accomplit la promesse et elle la renouvelle à chaque fois. C'est-à-dire, nous vivons là, dans notre foi, encore le temps de la promesse, et nous vivons le temps de la promesse du retour du Christ.
Vous pouvez le
redire,
s'il vous plaît.
Oula, alors... aujourd'hui, nous continuons de vivre la promesse de l'Ancien Testament, la promesse de la révélation de Dieu, cette promesse qui s'accomplira dans le retour définitif du Fils de Dieu, du Christ, pour nous. Donc, quand le Christ qui a déjà récapitulé en lui, alors du coup je dis autre chose, je pars sur, qui a récapitulé en lui toute la révélation de Dieu, eh bien, viendra dans ce moment définitif que l'on appelle la parousie, ce retour du Christ.
À la fin des temps,
voilà, ces temps dernières, cette eschatologie, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, au terme même, ça veut dire que même si le Christ accomplit en sa personne la révélation de Dieu et la promesse, eh bien, le départ de Jésus n'est pas un départ définitif. Sa mort n'est pas un départ mortel définitif puisqu'il y a la résurrection. Mais là, à la résurrection, il y a aussi un départ. Mais c'est un départ auquel est liée une promesse. C'est la promesse du retour. Voilà, je relis. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Voilà, si on en croit Luc, dans ce premier chapitre des Actes des Apôtres, c'est leur espoir, c'est leur espérance à Luc et aux apôtres. Eh bien, de la même façon qu'ils l'ont vu s'élever vers le ciel, dans ce temps eschatologique, dans ces fins dernières, toutes fins, eh bien, nous verrons ce Christ redescendre vers nous. Mais bon, voilà, ce temps...
Vous attendez qu'il revienne assez vite, non ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il pensait justement que Jésus allait revenir et que ce temps de la parousie allait être très proche. Et puis le problème, c'est que ça tardait. Et pendant que ça tardait, eh bien, les témoins mouraient les uns après les autres. Et on était dans un état de persécution, d'occupation romaine et de persécution. D'où l'urgence de mettre par écrit pour que le témoignage soit fixé pour les générations à venir et pour que le témoignage soit lu dans les communautés et puisse fonder, fixer la communauté chrétienne et puis l'assurer dans sa foi et lui donner la force d'aller peut-être jusqu'au martyr, voilà.
Et c'est Matthieu qui dit que Jésus est avec nous tous les jours normalement, non ?
Oui, oui.
Tout le temps là-bas.
Oui. Et puis on peut dire là où deux ou trois sont réunis, il est présent, je suis présent au milieu de vous. En fait, l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, qui est redonné aux apôtres, aux disciples et à Marie, c'est avec ce même esprit que ceux qui veulent se convertir, et ceux qui demandent le baptême, ceux qui veulent vivre en Christ, eh bien, sont baptisés. C'est pour ça qu'avec le sacrement du baptême, nous avons tout reçu. Nous avons reçu l'Esprit. Puis du coup, je prends votre question, madame.
Excusez-moi la question,
ouais.
Mais c'est quand ?
Eh bien, je ne sais pas. Oui, c'est quand le bonheur ?
Je ne sais pas.
Achevé, les hommes auront achevé de comprendre.
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas répondre à cette question. Parce que de toute façon, c'est de l'initiative de Dieu. La révélation de Dieu par sa parole, puis par l'incarnation, c'est de l'initiative de Dieu. Et le retour de Jésus, le retour, c'est de l'initiative de Dieu. Donc, par rapport à cette volonté, il y a la volonté, il y a une promesse, il y a une volonté de retour, mais on ne peut pas noter la date dans notre agenda, ça c'est sûr. En tout cas, pas dans cette vie. Mais ce que l'on peut dire, c'est que peut-être ce retour, peut-être que nous pouvons le voir et l'interpréter comme une récapitulation totale. C'est-à-dire qu'en Dieu, toute l'humanité, ou tout l'humain, je saurais comment dire vraiment, sera récapitulé. Comme tout a été récapitulé en Christ par sa mort et sa résurrection, eh bien tout sera récapitulé en Dieu lui-même, Père, Fils et Esprit. Bon, voilà. Alors peut-être qu'on arrivera au terme même de la vie connue. Je ne dis pas de la vie sur Terre, parce que ça, on y arrivera malheureusement au terme de la vie sur Terre. La Terre ne s'arrêtera pas d'être ce qu'elle est, mais par contre, il y a de grandes chances pour que ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations à venir soit le terme de l'humanité. Pas de la Terre, mais de l'humanité. Mais peut-être qu'il y a... que tout soit récapitulé dans le Créateur et en lui. Oui, je pense qu'il y a une récapitulation totale à un moment donné. Mais ça, c'est les mots de la foi. Je peux pas...
Quand on sera éveillé à l'amour total, non ?
Oui, ou quand on sera éveillé à l'amour total par celui qui a accepté de mourir de cette mort-là, par amour. Parce que finalement, cet amour total, on ne le connaît pas. C'est-à-dire, on ne peut que l'imaginer en voyant le Christ en croix, comme sur le tableau de Sourbaran qu'on a vu la dernière fois. On ne peut que l'imaginer parce qu'il n'y a qu'un amour aussi radical, aussi fondamental, je saurais trouver les mots, un amour avec un grand A, un amour de Dieu qui peut accepter cette mort-là. Donc peut-être que la récapitulation, c'est être récapitulé dans l'amour de Dieu, dans sa totalité.
Pour
tous, et en même temps, moi j'entends là ces petites phrases de l'Évangile qui dit « il y aura des pleurs et des grincements de dents, je séparerai le grain de l'ivraie ». Voilà, il y a ça aussi. Mais après, on peut se dire aussi que s'il y a du jugement, il n'y a pas de jugement sans miséricorde. Et c'est parce qu'il y a du jugement qu'il y a de la miséricorde. Et que la grande espérance, c'est aussi la miséricorde, et que l'on ne doit pas oublier que, et ça je vous l'ai dit, que alors que Jésus sur la croix n'était pas encore mort, que déjà il pardonnait, Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Oui, mais c'est Jésus.
Oui, mais c'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui pardonne. Voilà. Voilà, mais c'est pas, ça ne nous demande pas à nous de pardonner, mais ce sera peut-être le pardon final, récapitulant tous les êtres dans l'amour de Dieu. Voilà, je ne dis pas qu'un être humain vient récapituler et vient pardonner. Bon, ça après, c'est notre... Voilà. Mais l'amour de Dieu est un amour miséricordieux qui viendra récapituler dans ses fins dernières.
Voilà. Le pape dit fratelli tutti.
Oui, oui.
C'est pas mal, non ?
Oui, oui. Ouais. Bon. Alors... Parlons un petit peu des apparitions du ressuscité, parce que ça aussi, les apparitions du ressuscité doivent non pas nous interroger, mais en tout cas, on pourrait dire que les apparitions du ressuscité, elles sont aussi des signes de la présence du Christ ressuscité. Je dis des signes parce que... On ne pourrait pas parler de preuve non plus, parce que la seule preuve que l'on peut trouver dans les récits de résurrection, ce sont les témoignages de ceux qui ont été en présence du ressuscité. Les témoignages sont des preuves. Le tombeau vide et les apparitions ne sont que des signes En soi, elles ne sont pas des preuves. Par contre, le témoignage de ceux qui ont connu Jésus, qui l'ont vu mort, en tout cas, même si c'était au moment de la mise au tombeau, et qui ensuite le voient vivant au milieu d'eux, présent au milieu d'eux, mangeant, buvant, alors leur témoignage a fonction de preuve. Et c'est sur la foi de leur témoignage que nous croyons 2000 ans après, que nous croyons encore. Et comme vous, je ne sais plus qui disait dans l'assemblée, ben oui, ils sont morts pour le Christ. Donc leur mort aussi a valeur de témoignage pour nous aujourd'hui. Et parce que ces hommes sont allés jusqu'au bout de leur amour pour le Christ et de leur foi en Christ, que c'est un témoignage pour nous aussi. Aussi pour notre foi, quand notre foi est vacillante. Oui, c'est un témoignage. Donc, le témoignage des témoins oculaires, hein, témoignage oculaire, fonde la confession de la foi de l'Église. Et c'est sur ce témoignage-là, sur témoignage oculaire, que le kérigme est possible. En fait, les apparitions, elles vont attester du caractère unique de ce qui s'est passé. Quelqu'un qui était mort est vu vivant 3 jours après. C'est tout à fait inédit. Voilà, il n'y a rien d'analogue à cela. Il n'y a rien de commun, ça n'a jamais été vu. Et comme je vous le disais, les apparitions, elles vont agir sur la mémoire, sur le travail de reconnaissance. Et quand on travaille sur cette reconnaissance-là, c'est pas tellement la mémoire, mais elles vont pouvoir reconnaître, les témoins vont pouvoir reconnaître Jésus dans le ressuscité. Oui, il s'est montré à Pierre, il est vraiment ressuscité. Et puis l'autre fonction des apparitions, eh bien, c'est de manifester la gloire du Père, la gloire de Dieu. La gloire du Père, se manifeste dans le Fils ressuscité, qui se montre de lui-même. Vous voyez, il ne se montre pas lui-même tel qu'il est, mais il se montre de lui-même. C'est-à-dire qu'il va décider du moment où il va se montrer. Dans des apparitions, il apparaît au milieu des témoins, au milieu des apôtres dans le Cénacle. Il apparaît sur le chemin qui éloigne les pèlerins d'Emmaüs de Jérusalem. Il décide du moment où il apparaît. Il se montre de lui-même. Ça veut dire que Jésus, ressuscité, exerce une liberté qui lui appartient en propre. Il n'est pas celui qui va se montrer parce que le Père lui dira de se montrer. Vous voyez ? Le Christ glorieux exerce une liberté qui est la sienne. Et du coup, il va vivre sa présence auprès des apôtres comme ressuscité, de la même façon qu'il la vivait quand il était Jésus de Nazareth qui enseignait les apôtres. Il décide d'aller dans la montagne, il décide d'aller en Galilée, il décide d'aller à Capharnaüm. Il exerce une liberté qui lui appartient en propre. Ça veut dire que en Jésus, il n'y a pas eu de changement sinon celui qu'il est déjà dans la gloire du Père. Alors, ça a été ça, mais ça n'a pas été que ça. Ça n'a pas été que ça. Et puis, ce n'est pas une obéissance servile. C'est pour ça qu'il faut mettre face à l'obéissance de Jésus envers son Père et envers la mission qu'il a reçue, il faut mettre aussi la liberté. Et il faut mettre, face à cette liberté, il faut mettre aussi l'amour. Vous voyez, c'est pas... il ne faut pas oublier que dans la dimension trinitaire, dans cette circularité dont on parlait tout au début de la séance, il ne faut pas oublier que le moteur de tout cela, c'est l'amour. Et que l'esprit qui lie le Père au Fils, c'est un esprit d'amour. Et que rien de ce que fait le Père ou de ce que fait Jésus en obéissance au Père, eh bien rien de ce qu'ils font n'est en dehors de l'amour. C'est la motivation de Dieu, l'amour. Il n'y a que cela qui motive le Père. Ce n'est que l'amour. Et donc, si on dit que les apparitions sont la libre liberté de Jésus de Nazareth, de la même façon, il disparaît. Souvenez-vous, les pèlerins d'Emmaüs. Voilà, Jésus les accoste sur le chemin. Et pour faire marcher leur mémoire, il leur pose la question « De quoi parlez-vous en chemin ?» Alors, tu dois bien savoir. « Comment tu n'es pas au courant de ce qui est arrivé à celui qu'on croyait être un prophète, Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, qui est mort ? Mais voilà ce que nous ont dit certaines femmes de notre groupe, que le tombeau serait vide et qu'il est ressuscité. » Mais il n'empêche que les pèlerins d'Emmaüs y quittent Jérusalem parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être arrêtés. Ils ont peur de suivre le même, d'être traités comme Jésus. Et donc Jésus arrive le soir, et bien les pèlerins leur disent, le soir arrive, mange avec nous, partage le repas. Et vous voyez ces pèlerins qui ne reconnaissent pas Jésus. C'est bien Jésus ressuscité, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas d'abord parce qu'ils ne peuvent pas imaginer une seule seconde que celui qui les accoste soit Jésus, parce que Jésus est mort, donc de toute façon, ce n'est pas possible. Et donc, ils vont le reconnaître au fait que Jésus va, on en a parlé déjà, faire la bénédiction, rompre le pain et le leur donner. Et comme je vous avais expliqué, ce n'est pas parce qu'ils étaient là au dernier moment de la scène que les pèlerins le reconnaissent, mais parce qu'ils font partie du groupe, ils le disent eux-mêmes. Ils font partie du groupe des femmes, et qu'ils ont vu Jésus à maintes reprises faire ces gestes-là, comme tous les juifs, faire la bénédiction, rompre le pain et le distribuer. Mais le geste-là va libérer leur esprit. Mais on se souvient aussi que précédemment, que fait Jésus sur le chemin ? Il leur explique les Écritures. Donc Jésus commence par leur ouvrir l'esprit par les Écritures. Donc les Écritures plus le geste et la parole du geste liturgique quand même, eh bien, ouvre radicalement l'intelligence et la compréhension et la mémoire. Et du coup, les pèlerins peuvent faire, et le chemin de retour qu'ils font physiquement d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem symbolise le retour spirituel, on pourrait dire, que les apôtres font après la résurrection. Ils font la relecture de tous les événements. Et de la relecture de tous ces événements, eh bien, aboutissent à ce kérigme. Jésus est vraiment ressuscité. D'ailleurs, lorsque les pèlerins retournent vers le groupe des apôtres et qu'ils disent ce qu'ils ont vu, on leur répond : c'est bien vrai, il est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Donc, c'est bien vrai. C'est la vérité. C'est la vérité parce qu'il est apparu. Il n'est pas apparu à n'importe qui, il est apparu d'abord à Pierre, parce que c'est lui qui va fonder l'Église et qu'il a l'autorité pour cela, reçu de Jésus. Et il est vraiment ressuscité. Dites-moi.
Ce que je voudrais savoir, c'est comment ces disciples étaient tellement effrayés qu'ils soient restés.
Je pense à remettre. Alors, peut-être, oui, je comprends, vos collègues vous disent, mais vous n'êtes pas encore ressuscité puisque vous n'êtes pas encore mort. En revanche, je pense que l'on peut, quand on voit sa vie et quand on fait la relecture de sa vie, même si on n'est pas au terme de notre vie, heureusement, on peut peut-être remarquer qu'il y a dans nos vies des moments de petite résurrection. des moments où on a été sauvé de multiples manières, sur de multiples sujets, enfin voilà des moments où il y a eu une épreuve et on est sorti de l'épreuve un peu amoché mais victorieux quand même et debout quand même. Et bien ça, ce sont des petites résurrections. Et donc, on doit voir aussi là-dedans les prémices de quelque chose à venir en crise, dans une promesse qui va récapituler toute la promesse de Dieu depuis l'Ancien Testament.
C'est pas à confondre avec un amour furieux de la vie.
Comment ?
C'est pas à confondre avec un amour furieux de la vie.
Non, c'est pas à confondre avec cela, effectivement. Mais ça n'empêche pas qu'il est autorisé d'avoir un amour furieux de la vie, comme vous dites.
C'est un film qui s'appelle La Ronde de Max Ophuls.
Oui.
Un homme bien masqué en costume, cravate, machin.
Ah oui, oui.
Et il tombe.
Oui.
On lui enlève son masque, on a 10 ans.
Oui.
C'est une magnifique métaphore de l'amour furieux de la vie.
Oui, je suis assez d'accord. C'est juste. C'est juste. Enfin, vous voyez, tout est question de relecture. Et donc, c'est ce qu'ont fait les apôtres, en fait. Si on est là aujourd'hui pour en parler, c'est bien parce qu'ils ont essayé de comprendre, pas simplement comprendre l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus, du Christ, mais ils ont essayé de comprendre l'événement qu'était Jésus-Christ en lui-même. Il était en lui-même un événement du fait de son incarnation. Et donc, on peut comprendre la résurrection à partir de son incarnation. C'était déjà un événement de salut, son incarnation. Donc la résurrection fait vivre aux apôtres une expérience fondamentale, radicale, on pourrait même dire une expérience fondatrice, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, eh bien, ils vivent pour la deuxième fois, la rencontre avec le Fils de Dieu. C'est la deuxième fois qu'ils vivent cette rencontre-là. Simplement là, c'est le Fils de Dieu ressuscité qui est glorieux à présent. Et c'est donc une expérience qui advient par la croix et la résurrection, qui vient faire émerger comme ça l'espoir d'un monde nouveau, enfin, d'une vie nouvelle.
Quand on dit glorieux, c'est ressuscité finalement.
Oui, c'est... Oui. 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 C'est peut-être aussi l'idée d'être réintégré, c'est-à-dire que la condamnation humaine a créé, et la mort de Jésus, condamné sur la croix, a créé, Balthazar parle d'un hiatus, a créé une rupture. Non pas une rupture d'avec le Père, mais, comme je vous le disais, le silence du Père. C'est le Fils glorieux, c'est aussi le Père qui ne se tait plus et qui ressuscite le Fils, qui le réintroduit dans la gloire définitive, la gloire vraiment lumineuse, définitive du Fils. Comme si de plus rien d'humain ne pourrait atteindre le Fils. Et de fait, rien d'humain ne peut atteindre le Fils glorieux, le Fils ressuscité.
Dommage qu'il n'y ait pas eu un deuxième Judas.
Pourquoi ?
Pour remettre le truc en route, voir ce que ça aurait donné.
Bon, je ne sais pas trop.
C'est un imposteur, rebelote.
Mais en fait, la mort de Judas prouve déjà en elle-même que Jésus n'était pas un imposteur. Puisque la mort de Judas, c'est toute la culpabilité portée par un seul d'avoir livré le Fils de Dieu. Sa mort est le témoignage déjà en elle-même de la vérité de ce qui s'est produit, de la réalité de la venue du Fils de Dieu sur terre. Son remords prouve ça déjà. S'il ne s'était pas pendu, peut-être qu'effectivement, on n'en serait pas là pour en parler. Mais je pense que la mort de Judas, elle a aussi cette fonction-là, de témoigner de cela. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la résurrection, c'est la manifestation de la justice divine. Justice divine parce qu'à la condamnation humaine, et ça je l'ai souvent répété, hein, je suis désolée des fois de me répéter comme ça, à la condamnation humaine du Fils, eh bien le Père va répondre par la résurrection. Donc l'objectif est de cerner la manière dont l'homme et la femme, par la foi, a été de recevoir et de faire cette expérience-là. C'est-à-dire l'expérience de la rencontre, de la rencontre de Jésus ressuscité, et de faire l'expérience d'être sauvé, nous-mêmes y compris par la relecture dans nos vies. Et là, je vais vous mettre des guillemets parce que c'est une phrase du théologien Emmanuel Durand, qui est dominicain, qui écrit et qui dit « La justice divine s'étend à tous les temps, donc vraiment, elle s'étend à tous les temps, mais passe par l'événement de la résurrection. » Vous voyez, l'événement de la résurrection qui s'est produit à un moment donné de l'histoire, eh bien, il n'empêche que ce moment donné de l'histoire, il se dilate dans tous les temps, dans le temps eschatologique de l'Église, et que la justice divine, elle n'est pas à un moment donné, et puis c'est clos. Elle continue de se porter, d'être portée. Donc cette rencontre est pour l'homme un événement à l'intérieur de l'événement de la résurrection, dont le caractère absolument unique dans toute l'histoire, eh bien fait que la résurrection, au même titre que l'incarnation, événement sans témoin, demeure un événement dans le temps des hommes. Que le Christ s'est manifesté par des signes sensibles et visibles qui sont propres à la résurrection elle-même. Et ce que l'on peut retenir, c'est quand même que le témoignage ne s'appuie pas uniquement sur l'apparition, mais bien sur les témoins oculaires, témoins de ceux qui ont rencontré le Fils ressuscité. C'est la rencontre avec le ressuscité par les témoins oculaires que la foi des chrétiens est basée sur le kérigme. Vraiment, il est ressuscité. C'est l'exclamation que nous disons tous ensemble au matin de Pâques.
Il y a un évangile qui commence par ça, ce que nous avons vu,
la danse. Ça doit être l'évangile de Jean. Même si l'on relit le prologue de Jean, pour que vous croyiez et qu'en croyant que vous ayez l'amour en abondance. Oui, exactement. Voilà, ben écoutez. Bonne après-midi.